Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Valley Hoop, le podcast sur l'actualité des Phoenix Suns. Une semaine morose du côté des Suns, on dirait la météo du jour, on enregistre un dimanche. Je suis Grégoire et j'ai avec moi Hicham, le taulier de la bande. Comment ça va Hicham?
Ça va, tranquille. Un dimanche pluvieux, comme le jeu des Suns. voilà, le mood il est là.
Le mood est là, ouais.
Ouais, le mood est là, carrément. Mais bon, on va essayer quand même de tirer... le meilleur de ce qu'on peut tirer de ces Suns qui sont un peu déprimants. Et puis, écoute, moi, je suis, comme toi, très content de recevoir quelqu'un qui va égayer notre podcast et nous éclairer sur tout un tas de choses. Je te laisse faire.
Oui. Alors, on passe évidemment un bonjour à Rod qui n'est pas dispo aujourd'hui. On l'embrasse très, très fort. Il reviendra dès les prochains épisodes. Les Suns sortent d'une victoire un petit peu mollassonne face aux Hornets, puis une défaite juste avant contre les Celtics. On vient d'apprendre hier soir que Isaiah Thomas faisait une petite pige de 10 jours. L'ancien des Suns et l'ancien des Celtics. Et c'est justement des Celtics qu'on va entre autres parler avec un invité incroyable cette semaine. Azad, comment ça va?
Moi, ça va super. Il fait grand soleil. Et du coup, le mood est comme un petit peu la température ici dans le sud. Très, très bien, comme un peu les Celtics, quoi. Donc, moi, ça va. C'est beaucoup moins morose que chez vous, j'ai l'impression.
Ouais, Azad, QI basket, hein, si on doit le répéter.
Et le trèfle.
J'allais le dire, et le trèfle. Et puis, invité de différents podcasts qu'on aime beaucoup ici, puisqu'on a reçu récemment Baptiste Penny-Bergkamp, où tu es souvent chez lui, et également Guillaume, juste avant, du Basket Lab. On les embrasse tous les deux. Azad est un habitué également des threads qui décortique les tactiques, et pas que des Celtics d'ailleurs, sur Twitter. Donc voilà, on va laisser passer un petit générique et puis on va attaquer tranquillement. Bienvenue dans Valley Hoop. Back with the remix, these boys are my sons like Phoenix, my city. See the shots that I took, wet like on book. Raising up, deep three on the way. Durant goes, boom! That is just, oh. Sun came out. I'm waiting by the drop top. De retour dans Valley Hoop, on va tout de suite se plonger dans l'actualité des Suns. C'est une actualité qui est pleine de doutes. Les Suns, sur le mois de mars, ont enchaîné 9 matchs, avec notamment un déplacement, un road trip du côté de l'Est, avec des matchs à Boston, à Milwaukee ce soir, contre Charlotte, contre les Cavs et encore contre Boston. On a un bilan sur ces 9 matchs de 5 victoires pour 4 défaites. Bradley Beal avait été un petit peu absent sur le début du mois de mars. Je crois que, si je me souviens bien, Devin Booker aussi. Depuis 3 matchs, je crois, on a récupéré l'intégralité du roster et on est donc devant nos écrans à regarder cette équipe continuer d'essayer de se construire et continuer d'essayer de trouver une cohésion et un jeu. C'est pas toujours facile, mais disons qu'il y a des signaux faibles et des signaux forts qui nous indiquent qu'on est encore dans la balance entre avoir des espoirs et peser les vrais risques qui pèsent sur la saison des Suns et les résultats en fin de saison. Il y a beaucoup de doutes qui agitent la fanbase, il y a beaucoup de doutes qui agitent aussi les pronostiqueurs et les observateurs de la NBA. Azad, j'ai une première question pour toi. Comment tu visualises la forme actuelle des Suns au regard de leur saison et dans la perspective aussi de ce qui les attend, c'est-à-dire éventuellement une course aux playoffs, quoi.
Voilà, cette partie de la saison, je la trouve intéressante parce que vous êtes enfin au complet. Mais du coup, tu sens qu'il y a un peu une recherche d'identité qui a lieu. Et il y a des chiffres qui le montrent bien. Par exemple, sur les 10 derniers matchs, tu en as quasiment 7, en gros, sur lesquels tu as les fréquences habituelles au mi-distance et fréquences habituelles au cercle. Et tu en as 2 contre Houston et contre OKC qui changent un peu de ce qu'on a l'habitude de voir, avec une plus grosse fréquence au cercle et beaucoup moins de mi-distance. Et c'est intéressant parce que du coup, c'est des équipes qui, elles aussi, ont une approche un peu différente de la défense comparée à d'autres équipes. C'est qu'OKC, par exemple, pousse beaucoup aux pertes de balles et vous avez justement perdu beaucoup de ballons contre eux. Mais aussi, vous avez un peu changé la nature des tirs que vous prenez avec beaucoup plus de tirs au cercle, même si ça n'a pas été très efficace. Et je pense que c'est une bonne illustration de ce qu'est en train de vivre un petit peu Phoenix à l'heure actuelle, c'est rechercher son identité autant défensive qu'offensive. Et je pense que ça va aussi avec l'arrivée de Royce O'Neal, qui a joué à peu près un peu plus de 400 minutes. C'est peu, et en plus sur les 400 minutes où il joue, il a un différentiel de plus 26, il a un on-off de plus 26. Donc c'est-à-dire que la différence entre les moments où il est sur le terrain et il n'est pas sur le terrain, pour vous, est vraiment énorme, et en plus ça se voit en attaque et en défense. Donc je pense que voilà, il y a vraiment une recherche d'identité, d'intégration de ce joueur qui en fait est vraiment une super bonne pioche, et comment tu l'intègres pour que tout un peu l'écosystème Suns arrive à briller du coup autour des trois gros joueurs, et comment tu arrives à avoir une synergie en attaque et en défense. Et voilà, donc pour moi c'est une période qui est intéressante à suivre, parce que tu sens qu'il y a un peu des tests qui sont mis en place.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, c'est très juste. C'est vrai que les Suns ont beaucoup vécu sur le mid-range, et notamment les longs mid-range cette saison. Il y a des statistiques qui le montrent très bien sur la proportion de shoot pris. Le mid-distance est clairement le grand vainqueur dans le jeu des Suns, mais c'est à mon avis le fait que Bradley Beal était absent longtemps, puisque c'est lui la clé qui débloque l'accès au cercle, parce que c'est juste un joueur qui, dans sa carrière, a été et est encore très performant, sinon élite, dans l'attaque du cercle et dans la finition dans la restricted area. Et c'est vrai, tu as raison, j'ai noté aussi ça, que depuis quelques matchs, on sent des ajustements de Frank Vogel sur la sélection de tirs. Il y a eu notamment des matchs où on a un plus gros volume à 3 points et en même temps un plus gros volume au cercle. Et on sait que les deux types de tirs se répondent très bien, parce que si on a une bonne adresse à 3 points, ou en tout cas qu'on prend un gros volume à 3 points, forcément ça va ouvrir les raquettes. Les défenses vont être obligées de s'adapter à ce spacing-là. Et parallèlement, si on agresse le cercle, on a beaucoup de chances de provoquer des kick-outs vers des tirs ouverts dans le corner ou à 45 degrés, ce qui est les zones préférentielles de nos tireurs. Et notamment, tu l'as dit, avec Royce O'Neal, qui a un impact non seulement sur la défense, mais aussi sur l'attaque. Alors, moi, sur Royce O'Neal, je suis un peu plus réservé, parce que certes, dans le jeu, dans les statistiques et dans la théorie aussi, c'est un joueur qui est très positif pour les Suns, et je ne doute pas de son apport et de la pertinence de son recrutement. En revanche, il y a peut-être à pondérer un peu ce qu'on voit à l'eye test, c'est-à-dire de l'irrégularité et parfois des matchs où il passe complètement à côté. Et je pense que Hicham, toi, tu es un grand spécialiste pour repérer les joueurs qui passent à côté du côté des Suns, à commencer par la saison de Eric Gordon, par exemple. Mais comment tu situes tes doutes, et est-ce que tu as peut-être des points clés sur lesquels tu veux revenir sur la forme des Suns actuels, quoi?
Ouais, en tout cas, plus spécifiquement sur Royce O'Neal, moi j'aime bien ce qu'il apporte des deux côtés du terrain, du sérieux. Il prend les shoots, il n'a pas peur, même quand il est à 0 sur 4, il prend le 5e, le 6e. Ça peut être une qualité de ne pas être apeuré, et voilà, de ne pas craindre ses responsabilités. C'est à double tranchant, hein, parce que le mec après peut finir à 0 sur 8, 1 sur 9, voilà, ça arrivait récemment, donc bon, faut vivre avec ces matchs-là aussi. Mais globalement, j'aime bien. Par contre, au niveau global, Suns, c'est ce qui me chafouine particulièrement, parce que comme tu le sais, je préfère toujours me pencher sur les joueurs et les choses, on va dire, plus collectives, enfin, d'un point de vue collectif, qui me chagrine plutôt que ce qui me plaît. Comme ça, j'essaie vraiment de voir et de diagnostiquer où est-ce qu'on peut améliorer notre jeu pour aller plus loin. Et là, clairement, il y a des choses qui font plus que me chagriner, qui me foutent les jetons, qui me foutent les boules. Et on l'a vu contre Boston, ça n'a pas loupé, mais d'une violence. Le mental, déjà. Alors là, ça commence à vraiment me faire peur. C'est-à-dire qu'on joue contre des équipes qui sont le top du top de la ligue. Boston, c'est the very top, ok. Et tu vois que tu n'as pas le niveau mental de ces équipes-là. Ça fait peur. C'est-à-dire, tu rentres sur le terrain et tu vois qu'en face, les mecs, ils sont là, ils jouent avec confiance. Ils jouent avec physicalité. Physicalité, mais la bonne physicalité. Ils y vont, ils n'ont pas peur. Ils tapent dans le ballon. Ok, de temps en temps, on peut se plaindre un peu de l'arbitrage, on peut chouiner. Oh, il a dû taper le bras. Oh, le pauvre Nurkic, il n'a pas autant de lancers francs qu'on aimerait qu'il ait, parce que, puis on cherche plein d'excuses. Mais en réalité, quand tu regardes bien, quand tu essaies d'avoir un œil un peu plus objectif sur les choses, tu dis non, on manque de niaque, ils nous rentrent dedans, ils ont raison de nous rentrer dedans. C'est comme pour moi la détection d'une faiblesse mentale. Et là, ça commence à devenir vraiment inquiétant, parce qu'on parlait tout le temps des turnovers, on se disait non, mais ça peut s'améliorer avec les automatismes, avec un peu plus de sérieux, etc. J'ai pas l'impression que ça s'améliore tant que ça, pas parce qu'il y a pas les automatismes qui commencent à se construire au fil de la saison, mais pour moi parce qu'il y a le manque de sérieux qui est lié au mental. Prends pas les choses assez au sérieux. On l'a vu le lendemain contre les Hornets, certains back-to-back, mais c'est les Hornets en face. C'est la pire équipe de la ligue. D'un point de vue jeu, d'un point de vue effectif, talent, ils ont des blessés. Donc ils sont encore plus mauvais que ce qui serait au complet, hein, n'en déplaise à la Melo Ball, mais ce n'est pas une bonne équipe. Et on galère. On galère, même si on gagne de 10 points et qu'à un moment on mène de 20 points. Mais j'ai trouvé que c'était laborieux. Dans le quatrième quart-temps, il y a un moment, ça devient un petit peu laborieux, inquiétant. On se dit merde.
Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Ouais.
Et du coup, ça devient vraiment. Ça commence à. Je ne vais pas mentir à notre audience, je ne vais pas vous mentir, les gars. Ça commence à sérieusement m'inquiéter, voire, je ne vais pas dire me désintéresser, mais si ça continue comme ça, je risque à un moment de me désintéresser du jeu. Jusqu'à qu'il y ait quelque chose qui change vraiment. C'est-à-dire que là, je commence à atteindre le stade du dégoût. Tu vois, de me dire comment.
Ouais, je vois très bien, ouais.
Tu vois, t'arrives contre les Celtics et tu donnes pas tout. Il y a un truc qui va pas.
C'est vrai qu'il y a une grosse frustration que je partage, qu'on peut sentir dans toutes les fanbases, hein, que ce soit aux US ou ici. La frustration, quand on regarde les Suns, elle est, j'allais dire, quasiment obligatoire parce que. Il y a une absence, il y a une question qui se pose sur le leadership à l'intérieur des Suns, et notamment d'un point de vue visuel. Moi, je ne doute pas qu'il y ait un engagement de ces joueurs dans le succès des Suns et dans la volonté de gagner. On est quand même sur des très, très gros compétiteurs, le trio Bill, Booker, Durant. Mais on a quand même l'impression, effectivement, que parfois, et le match contre Charlotte, il est encore plus manifeste que celui contre les Celtics. Tu as une impression que les types rentrent sur le terrain sans l'envie d'en finir en deux cartons, tu vois. Et contre une équipe du bas de la ligue comme les Hornets, je trouve que c'est un peu dommage, quoi. Parce que c'est justement ces moments-là, des moments où tu crées le blowout très vite et où tu fermement dis qu'en fait, t'as fait le kill, t'as killé le match. En fait, ces moments n'existent pas et du coup, l'équipe a peut-être un peu de mal à se construire sur des victoires saines, nettes et précises. Et ça, c'est un peu dommage. Azad, tu veux rajouter un petit mot sur ce sujet ?
Moi, j'avais une question parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'aspects négatifs qui ressortent de ce que vous dites, mais il y a aussi au milieu de ça, il y a une victoire par exemple contre les Cavs.
Ah, on va y venir.
Qu'est-ce que vous voyez vraiment de différent en fait d'un match qui est frustrant contre les Celtics et juste après un match justement qui est plutôt rassurant contre une des meilleures équipes de la ligue aussi avec les Cavs en plus qui ont une très bonne défense. C'est quoi un petit peu pour vous les choses qui font que ça bascule plutôt du bon côté contre les Cavs et parfois ça perd du coup justement contre les Celtics. Est-ce que pour vous c'est vraiment ils jouent le même match entre guillemets et c'est juste le résultat qui change parce que la pièce tombe du bon côté ou il y a une différente approche d'un match à un autre?
Non, moi je pense qu'il y a différentes approches. Je vais te laisser la parole Hicham sur le sujet, mais effectivement je pense qu'il y a différentes approches et il y a des moments dans la saison, des match-up, des équipes, des confrontations, des déplacements, des réceptions, etc., où on sent que l'équipe n'est pas la même. En fait, il y a l'impression vraiment que ces Suns sont un peu le... Disons, ouais, t'as raison, il y a deux côtés de la pièce, quoi. D'un coup, elle tombe du bon côté et tu vas te retrouver avec une équipe qui, même quand elle est diminuée parce qu'il manque Booker ou il manque Bill, va complètement trouver son jeu et d'autres où elle semble s'en désintéresser complètement. Et moi, je trouve que les deux seuls joueurs qui sont stables d'un point de vue mental, pour reprendre les mots d'Hicham, c'est Yusuf Nurkic et Grayson Allen. Et c'est les deux seuls joueurs qui me semblent être à 100% ou même à 110% pour Yusuf Nurkic, qui est vraiment, pour moi, la meilleure surprise de cette saison. Jamais j'aurais pu espérer qu'il soit à ce niveau-là d'engagement mental, de mouiller le maillot et de se mettre sur le terrain en 4 pour que l'équipe ramasse du succès. Mais ouais, t'as l'impression vraiment qu'il y a deux visages, quoi. Et c'est ce qui nous laisse espérer d'une certaine façon, tu vois. Moi, il y a 1% de miracle selon le site The Ringer qu'on gagne le titre cette saison. Et moi, ce 1%, j'ai presque envie d'y croire juste sur la base des matchs où quand l'équipe joue, elle est juste phénoménale et formidable en plus. C'est-à-dire, il y a un vrai plaisir visuel et c'est le kill à chaque fois, quoi. Hicham, tu veux peut-être répondre à Azad?
Ouais, bien sûr. Ouais, c'est d'accord avec les différents constats que tu as faits, clairement, de bout en bout. Ce que j'ai envie de dire, c'est, bon, depuis le All-Star Game, on a joué quoi, à peu près une petite dizaine de matchs, en gros, si j'ai pas de bêtises, 8, peut-être 9, 10. Mais pour moi, il y a eu deux vrais bons matchs. Il y a eu le match contre les Nuggets, et le match, je crois que c'était chez eux d'ailleurs, si j'ai pas de bêtises, ou c'était à domicile, je sais plus. Bon, bref, en tout cas, on bat les Nuggets et de manière assez convaincante. Et contre les Lakers. Voilà, pour moi, ça, c'est les deux seuls vrais bons matchs que j'ai regardé des Suns depuis le retour du All-Star Game. Le match contre les Cavs, ils jouent sans Evan Mobley, sans Donovan Mitchell. On sait que Darius Garland, bon, bah, il est revenu de blessure là, il y a quelques semaines, il est encore dans la mise en jambe, on va dire, pré-playoff. Ils vont essayer de monter en régime pour les playoffs, cette équipe-là. Mais clairement, on joue une équipe qui, sur le papier, alors je sais, depuis le début de saison, ils sont meilleurs que les Suns, meilleure attaque, meilleure défense, enfin meilleure attaque, je ne sais pas, mais en tout cas, meilleur différentiel, mais bien meilleure défense, là, il n'y a pas photo. Et du coup, oui, c'est une bonne équipe dans l'absolu, les Cavs. Mais quand tu regardes ce soir-là les forces en présence, tu connais pas la NBA, enfin tu suis pas la NBA cette saison, mais tu regardes les joueurs qu'il y a d'un côté et de l'autre, tu vois George Young face à Kevin Durant, tu vois Jackie face à Booker, tu vois machin, tu regardes des match-up et tu te dis, ouais. Ok, les Suns là, ils doivent planter, ils doivent leur mettre 30 pions sur la truffe. Et c'est pas le cas, ils sont pas si loin de gagner au final, parce que je sais qu'ils reviennent plus ou moins à égalité à quelques minutes de la fin du match, et ça joue dans le money, et on gagne, alors que depuis le début de saison, le money, c'est pas trop notre truc. Mais tout ça pour dire que là, ce qui commence à vraiment m'inquiéter, c'est ce que je disais tout à l'heure, effectivement, l'aspect mental des choses, la niaque, et le fait de ne pas se taper, t'as l'impression qu'on n'essaie pas assez ou assez bien de corriger nos errances, et je vais dire un truc limite sacrilège, qui va peut-être pas me faire que des amis, mais je le dis comme je le pense parce que c'est mon mode opératoire. Là, il y en a un qui commence à vraiment m'agacer d'un côté du terrain.
C'est Eric Gordon. Ah, Devin Booker.
Ouais. Eric Gordon, on a compris. Le mec, c'est un 4 contre 5 en défense.
Ouais, c'est vrai.
Déjà, on sait qu'on prend un plan en défense et en attaque, il apporte plus rien. Il prend pas les shoots quand il les a. T'as toujours l'impression qu'il a peur de faire des marchés en sautant en l'air, mais comme il est petit et que son shoot il est lent à monter, qu'il va se faire bâcher, il est dans sa propre tête tout le temps. Il nous sert de moins en moins l'attaque, il nous sert quasiment plus. Je pense que c'est mental. Voilà, je pense que vraiment Eric Gordon, il a commencé depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, il a commencé à bien chuter d'un point de vue mental. J'ai cette impression à regarder les matchs des Suns les uns après les autres. Mais voilà, donc Gordon, le cas, il est acté pour moi, c'est-à-dire que c'est pas avec ce Gordon-là qu'on va aller gagner en play-off. Maintenant, celui qui m'inquiète grave et qui commence à me vénère, c'est Booker. Tu regardes sa défense, c'est pas la défense qu'il proposait l'année dernière, c'est pas la défense qu'il proposait il y a deux ans. Non, là, Booker, il est en train de proposer le genre de défense qui lui valait pas mal de sobriquets il y a 4-5 ans.
Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi, notamment sur... Alors, il est toujours aussi bon, je trouve, sur les quand il se fait poster, c'est-à-dire quand il est vraiment en défense au poste, où il faut repousser les coups de coude et les coups d'épaule de l'attaquant, ça va encore. Mais par contre, effectivement, sur les déplacements latéraux et l'agilité à naviguer entre les écrans, là, vraiment, on est sur...
Pierre Palladine, qui veut pas. Attends, le truc qui
vraiment un mélange d'absence presque de skill, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'il a vraiment pas de rapidité latérale pour une raison ou pour une autre. Et en plus les appuis sont pas recherchés, mais en plus tu as vraiment l'impression qu'il abandonne très très vite. Alors, c'est peut-être la consigne parce que je trouve qu'on switch très très vite les Suns. Azad, je vais te donner la parole parce que je pense que peut-être qu'avec ton œil extérieur, et puis surtout technique, un petit peu plus pertinent sans doute que le mien en tout cas, tu peux nous éclairer là-dessus. Mais j'ai vraiment l'impression que les Suns ont complètement accéléré la vitesse de leur switch en défense et que du coup, les efforts individuels sont masqués ou en tout cas difficiles à voir. Et soit ils sont absents, soit, euh, soit on a un problème. Mais dans tous les cas, ces switches très rapides, j'ai l'impression, n'aident pas les défenseurs, disons, moyens qui pourraient être plus s'ils y mettaient des efforts à fournir, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses.
En fait, c'est la structure de votre défense que je trouve hyper compliquée à gérer, parce qu'en fait, surtout contre des équipes comme Boston, vu que c'est les deux matchs dont on parle quand même pas mal sur ce podcast, contre Boston, t'as un problème qui est assez évident, c'est que Boston, c'est une équipe qui chasse les mismatchs. Et Boston s'est fait quasiment accéder au final de conférence en 2022 en attaquant Grayson Allen à l'époque où il jouait aux Bucks. Et tu regardes le match, surtout le deuxième match là à Boston, et en fait dès la première possession, t'as du Grayson Allen hunting en gros. Et quand ils font pas ça, ils attaquent le drop de Nurkic avec du pick and pop.
Ouais.
Et même, ils peuvent attaquer, ils peuvent, s'ils arrivent à switcher sur, à faire switcher sur, sur Nurkic, soit ils jouent le mismatch, soit du coup, après, t'as des espèces de late switch qui viennent se mettre en place, et du coup, ça crée des décalages, et en fait, t'as pas vraiment, en fait, quand Royce O'Neal joue pas, quand t'as Grayson Allen et Nurkic sur le terrain, t'as beaucoup de cibles, et du coup, ça demande énormément d'organisation et de coordination. Et le problème, c'est que t'as pas forcément l'effectif pour faire ça, en fait. Et je pense que les schémas défensifs sont bons, mais je pense que ça prend beaucoup de temps et ça demande énormément de discipline, surtout quand t'as des joueurs qui ont pas forcément les attributs physiques ou le moteur ou même l'âge et le physique pour faire ça, quoi. Et moi, c'est vraiment plus la défense qui va me poser problème, je pense, du côté de Phoenix. Et je me demande comment, à quel point tu peux combler ça par du shootmaking, parce que face aux bonnes défenses, vous vous en sortez plutôt bien. Vous avez un bilan positif et un net rating positif face aux 10 meilleures défenses de la Ligue cette saison. Mais par contre, je pense que si on regarde par exemple face aux 10 meilleures attaques, c'est un truc où vous allez avoir un peu plus de mal. Et je trouve que vraiment le match contre Boston le montre clairement, parce que t'as des problèmes structurels liés à ton effectif. Et voilà, contre les 10 meilleures attaques, par contre, Phoenix, c'est seulement 5 victoires pour 11 défaites avec un net rating de moins 4. Donc en fait, Phoenix a une très bonne capacité à battre des bonnes défenses par le talent en présence, le shootmaking et même la variété dans laquelle vous pouvez évoluer en attaque. Par contre, face à des très bonnes attaques, les problèmes structurels défensifs, peuvent pas vraiment être comblés, quoi. Parce qu'en plus, tu n'as pas vraiment de marge de manœuvre. C'est-à-dire que ta seule vraiment technique défensive, c'est de faire du drop ou alors de switcher de 1 à 4, mais pas sur Nurkic. Et en plus, vu que tu as un petit peu des proies défensives, des cibles, c'est compliqué à mettre en place. Et je pense que même si Kevin Durant est un protecteur d'arceau secondaire de très grande qualité, je pense que c'est pas suffisant pour vraiment pouvoir apporter d'autres schémas comme l'utiliser en roamer. Et la protection de cercle de Nurkic est plus aussi bonne qu'avant. Donc pour moi, c'est vraiment ça la grande question et la grande problématique autour des Suns. C'est comment avoir une cohérence défensive qui puisse te permettre d'aller chercher des matchs quand tu vas tomber sur des attaques qui sont vraiment dans l'élite de la Ligue, quand tu vas tomber sur des Milwaukee, quand tu vas tomber sur des Boston, des Denver, qu'est-ce que tu peux apporter défensivement pour t'en sortir et pas prendre l'eau et devoir compter sur rentrer tous tes trois points derrière, quoi.
Ouais, tout à fait, c'est très vrai ce que tu dis. Alors sur Milwaukee, je fais juste une petite parenthèse, mais ils ont quand même la défense qui correspond à notre attaque. C'est-à-dire que, enfin, en tout cas pour nous, là où ils sont très performants, c'est les attaques de cercle et les trois points, et ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup moins performants pour défendre le mid-range. Et le mid-range, c'est là où on génère le plus de points, on prend le plus de shoots, on a la plus haute qualité de réussite, et en plus, on arrive à provoquer des fautes, puisque les Suns sont plutôt très bons pour provoquer les fautes sur ce secteur-là du jeu d'attaque. Néanmoins, bon, ça reste les Bucks, et effectivement, ils vont nous faire chier, d'autant qu'en attaque, eux, ils ont des solutions, disons, plus complètes en termes de cohésion qu'on les a aujourd'hui. Donc moi, je m'attends à un match ce soir hyper intéressant. Mais pour revenir à ce que tu disais, sur le matériel, effectivement, si Kevin Durant c'est ton meilleur défenseur et que peut-être effectivement il mérite une All-NBA defense, Est-ce que c'est si bon signe que ça? Ok, c'est cool pour Kevin Durant, mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment cool pour les Phoenix Suns, quoi. Et quand on voit le rendement de notre meilleur défenseur sur le papier, qui est Josh Okogie, et les minutes qu'il a, c'est vraiment le point d'interrogation qui finit de clôturer en fait tout le gros volume de doutes qu'on peut avoir sur cette équipe, quoi. Et je vais juste finir on va clôturer cette partie sur les doutes sur une petite statistique, c'est que grosso modo, en novembre, on était 23e défense, en décembre, 18e, en janvier, 13e, en février, 9e, donc grosse progression au fil de l'année. En mars, jusqu'au 8 mars, on était 5e. Et aujourd'hui, donc on est le 17 mars, heure d'enregistrement de ce podcast, les Suns sont 17e. Donc il y a eu une énorme chute en 10 jours de match. Je ne sais pas combien on en a joué sur ces 10 jours, on a dû en jouer 5 ou 6. Et sur ces 5 ou 6 matchs, vraiment, on se fait punir. Simplement parce que, effectivement, depuis le All-Star Game, il y a une dimension qui est rentrée. Et t'en parlais, Hicham, je vais te redonner la parole. Mais c'est la physicalité. Et là-dessus, on se fait punir. Notre défense n'est pas du tout capable d'absorber les attaques qui misent sur le physique. Et Boston, on l'a bien vu, hein, les spin moves de Tatum avec une épaule ultra puissante, Jaylen Brown qui perfore les plexus de toute notre défense. On l'a vu pendant 1, 2, 3 quart-temps. Quatrième quart-temps, ça a été un déluge de 3 points avec Al Horford qui fait 23 points, record en carrière, on a l'impression. Ou en tout cas, record en deuxième partie de carrière. c'était impressionnant. Bon, voilà quoi. Cette dimension physique, vraiment, c'est difficile à vivre. Et effectivement, notre défense est très poreuse là-dessus. Hicham, tu voulais rajouter un truc?
Ah ouais, je voulais rajouter que quand tes meilleurs défenseurs, c'est Kevin Durant qui a 36 ans. Je ne veux pas parler de Josh Okogie parce qu'il joue peu et que en attaque, c'est un quasi 4 contre 5 aussi, systématique, donc il n'est pas trop jouable et encore moins en play-off. Donc on va le mettre à part. Mais c'est Kevin Durant, 36 ans, et Bradley Beal, qui n'était pas particulièrement réputé pour sa défense. Pour moi, c'est eux les deux qui sortent un peu du lot entre les joueurs, par rapport aux joueurs qui ont vraiment beaucoup de temps de jeu. On peut rajouter peut-être, Royce O'Neal. Grayson Allen, il fait ce qu'il peut avec ses moyens. Oui, même Nurkic, il est volontaire. On voit qu'il a des limites qui sont physiques, la rapidité latérale, la mobilité, etc. Bon, voilà, il essaie de compenser avec son intelligence de jeu, sa taille, son poids. Mais pour moi, c'est pas du 4 contre 5 en défense avec Nurkic, parce qu'il est capable d'apporter sur des séquences de jeu des choses intéressantes, même en défense. Et surtout, il clôture les séquences défensives avec des rebonds. Il prend beaucoup de rebonds, c'est hyper important. Enfin, il apporte. Mais voilà, le fait qu'on se soit amélioré de mois en mois en défense, ce qui commençait à être vraiment intéressant et bon signe par rapport à la suite des événements, pour que derrière, au mois de février, un peu avant le All-Star Game, et puis ensuite après le All-Star Game, donc ça fait une dizaine de matchs, où tu vois que des joueurs qui sont des leaders, comme Booker, qui doivent montrer l'exemple, et qui doivent apporter le max, ben le font pas. D'ailleurs, Booker, on peut évoquer son interview avec JJ Redick, où il en parle lui-même, où il dit, ouais, c'est vrai que en gros, tu lis entre les lignes, il te dit en substance, j'ai un peu plus de mal à motiver contre les équipes plus faibles, ouais. Etc.
Et ça, moi, j'ai bien entendu ça aussi. Dit, ouais.
Ouais, quand il l'a dit, ça m'a fait mal au cœur un peu, parce que je me suis dit, merde, Jordan, il t'aurait pas dit ça.
Ouais,
il t'aurait pas dit ça. Et toi, tu me dis, donc t'es franc, mais mon bouc, comment t'as pu dire ça? C'est-à-dire que t'es en train de... Ça m'a un peu énervé.
Je pense que c'est la réalité de tous les leaders, et notamment offensifs de la NBA. En vérité, je pense que c'est une pensée qui est très honnête et qui, à mon avis, appartient à beaucoup de mindset dans la NBA. Mais est-ce que tu as besoin de le dire dans une interview, alors que tu en donnes une fois tous les 12 ans et que tu as une fanbase derrière toi qui est suspendue à tes lèvres pour aller chercher de l'espoir dans la quête du titre 2024 ou 2025. Je ne sais pas si c'est super pertinent de le faire à ce moment-là.
Ouais, grave.
Mais bon, Écoute, on fait avec ce qu'on a, et du coup, ça me fait basculer sur la prochaine question, parce qu'on vient de discuter quand même pendant 30 bonnes minutes des doutes qui pesaient sur cette équipe. Ces doutes, ils sont évidemment très épais, très, très profonds. Mais moi, j'ai quand même envie de discuter des espoirs des Suns cette saison. J'ai vu passer cette semaine deux ou trois posts sur Twitter qui parlaient justement du fait que les Suns n'étaient peut-être pas à considérer comme perdus d'avance et que s'il y a un clic, s'il y a quelque chose qui se passe, si les étoiles s'alignent, et ben les Suns peuvent quand même être une match-up très très difficile en play-off pour un tas d'équipes, même pour quasiment l'intégralité des équipes. Moi, j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Hicham, je vais te redonner la parole avant qu'on demande à Azad ce qu'il en pense, mais est-ce que toi, tu as encore des petits espoirs, et si tu as de ces petits espoirs-là, ils sont où exactement?
Alors, est-ce que j'ai des espoirs de titre? Oui, ils sont très minces. Pourquoi j'ai des espoirs? Parce que je pense qu'on est l'équipe qui a la plus grande amplitude entre ce qu'elle est capable de produire de meilleur et de pire de toute la ligue. Et si on arrive, si toutes les étoiles s'alignent et qu'on est dans le meilleur de ce qu'on peut être, tu as une attaque de feu. Tu as une attaque qui est de l'ordre de l'inarrêtable. Entre Kevin Durant, Booker, Bradley Beal, tu as trois joueurs qui, balle en main, individuellement, peuvent faire déjà des différences à eux tout seuls, à des moments clés en play-off. On sait que le jeu a tendance à se congestionner, la physicalité à prendre de plus en plus de place. Et c'est des joueurs qui, normalement, théoriquement, n'ont pas de mal avec la physicalité quand ils décident mentalement, quand il y a ce switch, ils se disent « Ok, on y va » et on muscle notre jeu, comme dirait Aimé, notre cher Aimé. Donc, du coup, j'ai à part peut-être KD, qui est un peu plus dans la finesse, dans la dentelle, c'est pas tellement un joueur qui joue, on va dire, physique, mais qui peut s'accommoder d'un certain niveau de physicalité sur lui. Donc, en plus du fait que c'est des joueurs qui sont capables collectivement, tu l'as dit tout à l'heure, Greg, de produire un jeu vraiment léché et superbe à regarder jouer, la balle circule, fuse, on échange un bon shoot contre un très bon shoot, qu'on troque contre un excellent shoot, donc surtout avec des plaques tournantes comme Nurkic, on arrive à produire des très belles choses par séquence. Malheureusement, ça a énormément manqué de consistance au cours de la saison, et même assez régulièrement au sein d'un même match, où ça peut jouer très bien, et puis malheureusement avoir une grosse chute dans le jeu, dans l'envie, etc. Et en particulier dans le quatrième quart-temps, on a vu des collapses qui te fendent de cœur quand t'es fan des Suns. Donc, est-ce que j'y crois pour le titre d'une manière générale? Oui, très faiblement, comme l'indiquent les odds, 1%, je crois qu'on est à peu près dans le ton. Et c'est surtout dû malheureusement à la défense, et l'a dit très justement Azad, ça fait tilt dans ma tête, et c'est très vrai, je le ressens comme ça. Contre de grosses défenses, je pense qu'on peut avoir nos chances. Tu joues les Cavs, tu joues, je sais pas moi, une équipe comme ça qui
Minnesota, vraiment va
être Minnesota, une équipe. Minnesota, pour moi, c'est le meilleur match-up qu'on pourrait avoir en play-off.
Donc tu rejoins Rod, parce qu'on en parlait la semaine dernière, et tu rejoins Rod, ok. Ouais, moi, j'ai dit Oklahoma City, mais c'était vraiment pour troller Constant, à qui je passe le bonjour.
c'est moins drôle. Ils n'ont pas l'expérience. Mais
ils n'ont pas d'expérience, non, mais non, ils sont pas droits à la jouer, mais disons qu'il y a une dimension rebond, etc. Mais bon, on a eu cette discussion-là dans le pod précédent, mais c'est intéressant que tu dises qu'effectivement, on a peut-être plus d'espoir sur les grosses défenses, parce qu'on a une énorme attaque et une défense qui peut à peu près s'ajuster sur des attaques médiocres. Mais je suis d'accord avec toi, si on rencontre des attaques puissantes, c'est plus compliqué pour nous. Ça, clairement, on s'en est rendu compte toute la saison quasiment. Azad, est-ce que toi, t'as des espoirs pour les Suns? Et si oui, comment tu les visualises? Ils prennent quelle forme?
En fait, il y a un truc qui est, en termes de play-off, qui va être hyper intéressant s'ils arrivent à le garder, c'est cette capacité à aller sur la ligne des lancers francs. En fait, vu que la réussite au tir souvent baisse en play-off, parce que les défenses, du coup, il y a une qualité de tir qui descend un peu comparé à la moyenne, parce que du coup, les défenses attaquent beaucoup plus. Mais du coup, si même tout le monde perd un peu en efficacité au tir, mais toi, tu restes l'équipe qui provoque le plus de lancers francs, t'as un peu un avantage concurrentiel qui est vraiment basé là-dessus. Et du coup, ça peut être hyper intéressant. Et pour moi, c'est là où ça peut jouer. Un autre truc qui peut vraiment jouer en votre faveur, ça va être sur des séries. En fait, ça peut aller très vite d'un côté comme de l'autre. et ça peut très vite aller de votre côté avec du gros shootmaking. Et on l'a vu l'année dernière, vous avez failli, enfin, vous avez pas, peut-être pas failli sortir Denver, mais en tout cas, vous avez quand même pris deux matchs aux champions. Et parce que justement, il y avait Booker qui était touché par la grâce. Et ça, c'est pas impossible que ça arrive d'une nouvelle fois sur une série de playoffs. Ça peut arriver à Bill, ça peut arriver à Durant. Du coup, il y a un peu ce truc-là aussi que sur des petits échantillons, parce qu'une série de playoffs, au final, ça va assez vite. On l'a vu l'année dernière, par exemple, Boston-Miami. En fait, tu rejoues la série 100 fois, tu la gagnes pas forcément autant de fois si t'es Miami, mais il suffit que le shootmaking tombe de ton côté pendant un moment et vous avez ce truc-là un petit peu de... Bah, un shootmaking de grande qualité peut arriver et peut renverser une série où vous n'êtes pas forcément favori. Mais bon, y a un truc qui me fait peur un petit peu, c'est la bataille un peu des possessions. En fait, le problème, c'est que Phoenix est assez mauvais au rebond défensif, provoque pas de perte de balles et perd beaucoup de ballons. Et en fait, le seul truc où vous limitez un peu la casse, c'est du coup au rebond offensif. Mais en fait, avec des matchs beaucoup plus serrés, la bataille des possessions compte beaucoup plus en play-off. Et là-dessus, c'est quelque chose qui me ferait un peu peur pour vous et peut-être que quelque chose qui n'est pas beaucoup discuté. Et en plus, le fait que Phoenix perde beaucoup de ballons, ça veut dire que ça génère beaucoup de transition pour les adversaires, alors qu'à l'inverse, Phoenix, c'est une équipe qui joue très peu en transition de l'autre côté. Donc là-dessus, c'est un truc qui peut être aussi un peu dangereux, arriver les playoffs. Mais pour moi, les deux points vraiment importants de Phoenix, c'est cette capacité en fait, de pouvoir battre tout le monde, parce que bah, si tu as le shootmaking qui rentre, bah, c'est impossible à arrêter tout simplement. Et en plus de ça, tu as un peu une contre-attaque à ça, c'est que t'es très efficace sur la ligne des lancers francs et t'es vraiment capable d'y aller beaucoup plus que les autres équipes de la ligue. Donc, t'as un peu un contre-move au cas où t'es pas de réussite en attaque. Mais pour moi, c'est un peu les deux points qui peuvent faire basculer une série du côté de Phoenix. Mais il y a aussi beaucoup de points où je peux voir ça ne pas tomber du bon côté pour les Suns.
Ouais, c'est vrai, je vais remettre un peu ce que tu dis en contexte. En plus d'être d'accord avec toi, je vais filer quelques chiffres. On est tout simplement premier hein, pour générer des lancers francs, ce qui est quand même, je trouve, une prouesse remarquable parce qu'on va peu au cercle comparativement. Donc, on provoque ces lancers francs sur un assez gros volume de shoot à mi-distance. Donc, ça, c'est plutôt cool parce que ça concerne nos attaquants principaux qui, en plus, réussissent plutôt bien les lancers francs. En revanche, effectivement, sur les points par possession, moi je trouve qu'il y a une donnée qui est intéressante, c'est qu'on est effectivement 8e de la ligue avec 118,4 points par possession. Derrière nous, il y a des équipes qu'on peut battre en play-off comme New Orleans, Golden State, si ça y va, Sacramento, les Lakers, etc. Si ces équipes, Minnesota aussi qui est pas très bon à ce sujet, qui est 17e. Ces équipes, on peut effectivement les battre en play-off sur le volume de possession joué. Mais par contre, au-dessus de nous, il y a clairement, pour moi, les favoris au titre, c'est-à-dire les équipes contre lesquelles il faut, si on veut y croire, être meilleur, quoi. Et c'est notamment Denver, qui est à peu près au même niveau que nous. Même Dallas vient être meilleur que nous, alors qu'ils font une saison en demi-teinte, eux aussi. On a Milwaukee, les Clippers, enfin Milwaukee, ça nous concernerait que dans le cadre d'une finale, mais on a les Clippers, Oklahoma City, qui sont également au-dessus. Les premiers de la ligue sont évidemment les Celtics de Boston. Donc, ouais, c'est des chiffres qui sont intéressants. Tu as raison là-dessus. C'est vrai que si l'attaque se connecte, ces deux éléments, les points par possession et les lancers francs, sont majeurs. Par contre, il faut que l'attaque se connecte. Et du coup, ça, on repart sur une réflexion autour de la cohésion de l'équipe et du fond de jeu qui a été trouvé ou pas du côté des Suns et qu'on voit par séquences très lumineuses et qu'on voit ensuite disparaître dans des séquences plus obscures. Mais ça tient peut-être à ça, et je rejoins complètement Hicham quand il parle de miracle. Quoi. On en revient à dire que ça relève complètement du miracle. Et bah, moi, je l'espère un peu toujours, mais je sais que si on gagne, ça relèvera du miracle et on pourra crier effectivement au miracle. Quoi. Mais voilà, après... On peut peut-être juger Frank Vogel dans ses playoffs. Est-ce qu'il est capable pour vous de step up un peu son niveau? Est-ce qu'il est, est-ce qu'il a des match-up favorables face à d'autres coachs? Est-ce que vous le voyez être susceptible de faire les bons ajustements au bon moment? C'est vrai que depuis le début de la saison, moi, je suis plutôt, disons, satisfait de son travail, même si rien n'est parfait, évidemment, et que je ne lui mets pas 20 sur 20, mais je suis plutôt satisfait de son travail et surtout de sa façon de chercher toujours l'ajustement en plein match et d'un match à l'autre. Ça, je trouve que c'est très dynamique et c'est très positif. Mais est-ce que vous avez un quelconque espoir en Frank Vogel pour incarner justement ce push de play-off et ce miracle en vue? Hicham, par exemple?
Moi, je suis moins Tim Vogel que toi.
Ouais. Il y a le droit.
Ouais. Est-ce que je crois qu'il est capable? Il a montré contre les Lakers qu'il pouvait emmener une équipe jusqu'au bout. Alors, il a emmené une équipe qui avait en son sein LeBron James, Anthony Davis, et puis Caruso et KCP, des joueurs quand même intéressants défensivement. C'est censé être sa marque de fabrique. Là, on se disait au fil des mois, on commence à voir l'effet Vogel en défense. Mais ça se voit moins depuis quelques temps. Donc, qu'est-ce que je vais dire sur Vogel? J'ai mes doutes. J'ai mes doutes sur sa capacité à être l'homme de la situation d'une manière générale. Là, ça fait quand même maintenant 6 mois, 7 mois de saison régulière. J'exagère peut-être un peu, ouais, je sais pas, au moins 5-6 mois de saison régulière. L'amélioration en termes de jeu, oui, elle est là. On voit que ça joue quand même, et heureusement, de manière plus automatique, enfin plus d'automatisme. Mais dans l'absolu, c'est pas ça. Et se comparer aux meilleures équipes de la ligue, dont les Celtics, qu'Azad vient représenter aujourd'hui, d'une certaine manière, ça nous fait voir l'écart qu'il y a entre les deux, l'écart de défense, l'écart de niaque, l'écart de physicalité. J'ai pas envie de dire l'écart de qualité, on va dire technique entre guillemets, de talent offensif, parce que pour moi c'est pas là que l'écart se joue. Je pense on est plus que capable de se comparer à une équipe comme les Celtics si on joue notre meilleur jeu et qu'on fait valoir vraiment nos atouts offensifs. On est au moins je pense capable de produire autant d'un point de vue offensif, si ce n'est plus, c'est-à-dire vraiment d'être à la base la meilleure équipe de la ligue. C'est vraiment ça que j'espère au début de saison. C'est voilà, avec autant de super individualités, pour moi on pouvait être que dans le very top de la ligue d'un point de vue offensif. Mais bon, entre la théorie et ce qui arrive concrètement sur le terrain, ben aujourd'hui on se rend compte qu'on est quand même loin de ça. Et que les Celtics, par exemple, sont loin devant, et d'autres équipes aussi, les Nuggets, peut-être qu'on peut mettre voilà, les Clippers dans ce lot-là aussi, etc. Il y a d'autres équipes comme ça qui sont vraiment de meilleur niveau et de meilleure facture que ces Suns sur ces 6 mois de saison régulière. Donc voilà, le 1% de odds, encore une fois, il est à la bonne place, je pense, au final. Malheureusement, moi, ça me rend triste de dire ça, parce que j'espérais au début de saison que ça soit cette saison et la prochaine peut-être nos meilleures chances de titre all time, et en fait je tombe de haut, donc ça fait un peu mal, et tu te dis mince, est-ce qu'on va pas complètement se HM en playoff dans un mois ou un mois et demi? Et ma crainte, c'est de plus en plus que oui, on est susceptible de se foutre la grosse honte si on se sort pas les doigts d'un certain endroit de la pièce.
Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. On en revient toujours à la balance risque miracle. Hein. C'est soit les égouts, soit c'est le ciel, quoi, grosso modo. Je crois que c'est toi, Hicham, qui disais que on avait un différentiel entre les espoirs et en tout cas le plafond et le plancher, et c'est vrai, là, c'est vertigineux, quoi, c'est complètement vertigineux. Toi, Azad, c'est quoi ta vision du coaching de Frank Vogel et tes espoirs éventuels de le voir passer un cap en playoff?
En fait, moi j'ai peur qu'il ait pas les outils pour être bien utilisé. En fait, je comprends la volonté de vouloir mettre un coach défensif aux Suns dans l'idée où tu as besoin du coup d'avoir vraiment un gars qui soit derrière à la coordination entre guillemets et à mettre en place des choses intelligentes et faisables en défense pour l'effectif actuel qui est vraiment pas un effectif qui est fait pour défendre entre guillemets. Enfin, tu as très peu de, comme on l'a déjà dit tout à l'heure, tu as très peu de bons défenseurs structurels. T'as beaucoup de mismatchs potentiels et t'as pas une énorme capacité non plus à faire du switch-all et même peut-être de la zone, c'est rare. En tout cas, je trouve qu'il y a, il a pas forcément les outils pour être bien, bien mis en avant. Mais je comprends l'idée de vouloir mettre un coach très défensif dans une équipe qui a besoin de défense. Mais en fait, je me demande si aux Suns, il aurait pas fallu un Mike D'Antoni. Pour le coup. Mais tu vois, un mec qui...
Moi, j'avais prêché, prêché ça en début de saison. J'ai dit, franchement, mettez-nous un Mike D'Antoni à la tête de ça. Jouons le tout pour le tout et jouons la Suns, quoi.
Tu double down sur tes forces et puis tu vis avec. Vouloir faire de cette équipe clairement offensive, une équipe défensive, voilà, une équipe qui va être capable de s'inscrire, on va dire, dans les 10 meilleures défenses de la Ligue. C'était un peu trop ambitieux, on le voit maintenant. On n'a pas les outils pour ça. Voilà. On n'a pas les outils. Et bilan, au lieu de double down sur nos forces, on va essayer de pervertir, ou je ne sais pas comment dire, de travestir notre identité de jeu all-time. Ça ne date pas d'il y a un an ou deux, ou de maintenant, c'est all-time. Les Suns, c'est une équipe offensive qui joue le tout pour l'attaque. Et tant pis si ça ne paye pas. Tant pis, vivons avec notre identité, et puis ça paye tant mieux, ça paye pas, au moins les fans vont pas être dégoûtés de ce qu'ils vont voir, c'est-à-dire une équipe sans âme, quoi. Enfin, sans âme au sens en perte totale d'identité. On a toujours eu historiquement des super point guards, et là, on joue sans point guards. Il y a des trucs qui... Je sais pas, il y a des signes, je trouve, qui trompent pas et qui montrent que... On est contre nature, en fait, depuis le début de saison, en réalité. Moi, peut-être, je faisais partie de ceux qui se voilaient la face, en disant, mais non, c'est bien, on tente un truc original qui peut payer, etc., etc. Puis avec le recul, comme souvent, je me rends compte que je suis plus que capable de me tromper. Et là, je me dis, mince, en fait, ça va nous péter à la gueule, quoi. Ce délire, jouons à l'opposé de ce qu'on est vraiment dans l'âme, quoi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les gars.
Si, complètement, complètement. Je pense que c'est ce que tu voulais dire, plus ou moins, Azad, non, en suggérant Mike D'Antoni.
Ouais, clairement. En vrai, pourquoi pas essayer de jouer comme Indiana, tu vois. Enfin, je veux dire, t'as plus de talent offensif qu'Indiana.
C'est pas ce qu'il a dit à Greg, là.
tu me susurres des mots doux dans mon oreille.
Bah non, mais c'est vrai, tu vois, c'est pourquoi tu vas pas là-dessus à fond, quoi. En vrai, ils sont une caricature d'eux-mêmes en étant la deuxième attaque et la 25e défense, mais parce qu'en même temps, ils peuvent faire que ça et eux l'assument complètement. Alors que c'est vrai que Phoenix, c'est la 8e attaque et la 13e défense, donc tu te dis de l'extérieur, tu te dis ah, c'est plutôt équilibré. Mais en fait, défensivement, c'est le. Peut-être qu'en plus, défensivement, c'est le mieux qu'ils puissent faire. Et tu vas pas voir faire beaucoup mieux que ça parce que structurellement, tu peux pas faire beaucoup mieux que ça. Et c'est offensivement, en fait, où t'es pas assez optimisé, quoi. Et après, encore une fois, sur une série de playoffs, selon la match-up, ça peut très bien tourner. Là, c'est quoi un petit peu... Vous allez devoir passer par le play-in, du coup, là, cette saison.
Si on prend là où on est aujourd'hui, je crois qu'on est 7e ou 8e, effectivement, ça sent plutôt le play-in. On a le calendrier le plus difficile jusqu'à la fin de saison. Ouais, on est 6e. On est 6e aujourd'hui, ok, d'accord. Donc, il faut qu'on gagne contre Milwaukee et il faut qu'on continue d'espérer aussi, finalement, que nos adversaires principaux à la course au play-off perdent. Donc, nous, au mieux, on finit, je pense, 6e. 5e, ce serait un vrai miracle. Et je ne sais même pas si ce serait de bon augure. Parce que,
ce ne serait pas forcément une bonne chose.
Parce que si Oklahoma reste premier que Denver reste second, est-ce que tu as envie de taper Denver au premier tour? Bon, en vrai, franchement, de toute manière, il faudra les taper à un moment donné si tu veux aller au bout. Et n'oublions pas que les objectifs des Suns cette saison, c'est d'aller au bout. Hein. Quand tu as Devin Booker, Kevin Durant et Bradley Beal dans ton effectif, avec Frank Vogel en coach, moi, je ne vais pas me satisfaire d'un premier tour de play-off quand bien même on me dise Bradley Beal, Devin Booker et Kevin Durant, ils ont joué que 525 minutes cette saison ensemble, alors que les Clippers, le trio, il a joué plus de 1000 minutes, etc. Ce que je répète à loisir dans chaque podcast quasiment. Mais cette excuse, elle explique bien ce qui se passe au Suns cette saison et pourquoi on a encore du mal, notamment à générer une attaque de feu comme on le voudrait et comme Indiana, par exemple, le fait. Mais elle excusera pas le fait qu'on ne soit pas allé au bout cette saison après tous les sacrifices que la franchise a fait depuis le 9 février 2023. Donc oui, c'est clairement là aujourd'hui ce qu'on espère, Azad, pour revenir à ta question, c'est finir au mieux 6 pour s'éviter des matchs casse-tête en play-off. Quand bien même je pense qu'on a nos chances face aux Lakers, on a nos chances face aux Warriors. Dallas, on n'est pas réputé pour être un super bon match-up face à nous, tu vois. Donc, je ne le vis pas super bien si on doit se taper Dallas au play-in. Et puis finalement, tu vois, le Stephen Curry game en play-in qui t'envoie à Cancun, je ne suis pas sûr non plus que j'ai envie de le vivre. Clairement pas. Donc non, moi je vise la 6e place. Je pense qu'il faut vraiment pas qu'on pense à ce play-in et il faut absolument qu'on l'évite. Et après, ça nous ferait jouer contre Minnesota ou les Clippers. Et dans tous les cas, c'est des équipes que tu vas devoir battre, quoi. Ouais, c'est des équipes que tu vas devoir battre. Mais j'ai l'impression qu'il y a un élément qui va surgir à l'Ouest sur la fin de saison et au moins le début des playoffs. C'est que toutes les équipes qui sont vraiment très fortes, c'est des équipes qui sont un jury prone. Et je sais pas, tu vois, moi, je vois la blessure de Karl Anthony Towns, le mal de dos de Kawhi Leonard, etc., etc., le fait que bien un bon nombre de nos équipes aient été, disons, en tout cas de ces équipes, aient été relativement OK niveau blessure cette saison. J'ai l'impression que ça va péter en fin de saison et que l'Ouest, qui est une vraie jungle, va rester une jungle, mais autrement, en devenant un espèce d'endroit ouvert où ça va être un Hunger Games de qui prend la série, quoi. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment cette impression-là, moi.
Ouais, moi, j'ai envie de rajouter par rapport à cette histoire de play-off que tout est une question de match-up, en fait. À l'Ouest, là, clairement, on rencontre Denver ou les Clippers. Au premier tour, même Dallas, voilà, il y a des sales match-up pour nous. Là, tout de suite, sur ces play-offs, on serait capable de perdre dès le premier tour, en réalité. On ne va pas se voiler la face. C'est une vraie possibilité. Et il y a des match-up qui, sur le papier, sont beaucoup plus favorables. On pense en particulier, a priori, à Minnesota, qui pourrait être un bon match-up. Peut-être au KC, juste parce qu'il manque d'expérience et que ça peut jouer face à des vieux briscards, enfin des mecs voilà, qui ont l'habitude de ces joutes-là en play-off, mais pas en termes de talent pur. Minnesota, qu'est-ce qu'il peut y avoir ? Peut-être au premier tour, il ne peut pas y avoir, je pense, un Pelican Suns, quoique théoriquement ça reste toujours possible. Est-ce que ça sera un bon match-up ? Peut-être, ouais. Booker, il a tendance à souvent très bien jouer contre les Hornets.
Ouais. Contre les Pelicans, tu veux dire ?
Les Hornets, ouais, les Pelicans. Donc c'est une question de match-up, mais je pense que vraiment l'équipe qui est le plus capable dans la NBA, du meilleur comme du pire, je ne vois pas une autre équipe que les Suns.
Ah ouais,
capable du meilleur, c'est-à-dire capable d'aller jusqu'au bout et de te produire un jeu où tu dis merde, comment on les arrête ces types-là,
ouais,
et où ils sortent. Mais on ne les a pas vus, ces Suns-là, toute la saison régulière, ils étaient où? Ou alors de voir des Suns où tu dis ah, tu tapes la grosse barre et tu dis bah, on vous voit y arriver à des kilomètres sans votre point guard et à jouer votre jeu bizarre avec pas mal de d'ISO et de ballons de gonfle dans les mains des trois stars et puis à côté ça suit pas, donc tout est possible, on verra bien, mais l'optimisme est en train de quitter certains rangs, les miens en l'occurrence, et j'espère que je me trompe, en fait j'espère que je me trompe, je suis censé être l'optimiste du podcast et même moi je prends du noir depuis
il y a le droit cette saison, il y a le droit. C'est vrai que c'est surtout qu'on n'a pas grand chose à quoi se rattacher, on n'a pas d'échantillon suffisant, comme diraient les statisticiens, pour mesurer vraiment nos nos espoirs et ce qu'on voit de manière générale est tellement flou et confus que c'est difficile de savoir effectivement où on va mettre les pieds dans ces playoffs, mais tout peut arriver.
Et même si on
arrive
jusqu'en finale, imagine, on tombe sur qui, sur les Celtics.
Ah ben oui,
giflé deux fois, salement, tu vois. Vraiment au-dessus, ouais, tu vois, en termes de jeu et de physicalité.
Ça va être soit extrêmement incroyable à vivre, soit ça va être vraiment une redite de 2022 où on va sortir des playoffs la queue entre les jambes et complètement sous Prozac pendant 6 mois. Bon, parlons Celtics, une équipe qui joue un basket sûr, une équipe qui a un échantillon.
Ah, ils sont contents, les fans des Celtics.
Voilà, les fans des Celtics. Tu sais que dans le groupe, le roster que je salue, on a de nombreux fans des Celtics. Je n'ai jamais vu des fans avec une équipe aussi compétitive, une franchise aussi titrée, être aussi insatisfaits.
C'est pas vrai. Sérieux.
À la trade deadline, c'était super rigolo. Je les embrasse évidemment, ils sont trop mignons. Mais à la trade deadline, c'était vraiment. Ah, j'espère qu'on va se renforcer. On a vraiment trop de défauts. On a vraiment trop de défauts à gommer. J'espère qu'on va se renforcer. Il nous faut absolument tel et tel type de joueur. Les frères, vous êtes en 40-20 depuis 8 semaines. Vous roulez sur toute la ligue. Qu'est-ce qui se passe, Azad? Comment tu sens là? Alors toi, je sais que, notamment sur Twitter, tu es très critique vis-à-vis des Suns, mais tu as un angle critique qui, pour moi, fait sens. C'est notamment un angle critique sur les 3 points, je crois, sur le volume de tir à 3 points et sur le sens que ça prend quand on est en play-off, puisque le volume de 3 points général, une fois qu'on est en play-off, baisse beaucoup. Et une des identités du jeu cette année des Celtics, et on l'a vu contre les Suns, parce que c'est un des matchs sur lesquels c'est le plus représentatif, je pense, dans votre saison, puisque vous signez 25 shoots à 3 points sur 50, je crois, donc réussite de 50%. Vous avez un gros volume et vous avez une excellente réussite. En équipe, vous êtes à 39%, ce qui est quand même très, très correct. Et toi, je trouve, il me semble, hein, tu me corriges si j'ai pas tout vu et que je dis n'importe quoi, mais il me semble que tu trouves que c'est un défaut. Moi, je voudrais que tu me parles de ça, parce que je trouve ça super intéressant d'un point de vue analytique.
En fait, c'est pas le volume à 3 points qui me pose problème, c'est le manque de volume au cercle.
Et une question de ratio, quoi.
Ouais, c'est ça. Et même, tu vois, par rapport à des. Et c'est les conséquences que ça peut avoir. Par exemple, les Suns, en comparaison, les Suns vont très peu au cercle aussi, mais sont vraiment capables de générer des lancers francs. Vous êtes la meilleure équipe au lancer franc. En termes de lancers francs provoqués par 100 possessions, alors que Boston, qui est une équipe quand même entourée, enfin remplie de stars, disons, appelons ça comme ça, va très peu sur la ligne des lancers francs, seulement 17e de la ligue en termes de fréquence de lancers francs. Et ça peut être très problématique parce que bah, du coup, plus tu réduis ta fréquence au cercle et à la ligne des lancers francs, plus tu te laisses être un petit peu une victime potentielle de la variance. Et en gros, bah, du coup, c'est pareil. Plus tu as un gros volume de 3 points, plus t'es un petit peu, tu peux être victime de la variance. Et du coup, ça peut tomber d'un côté comme de l'autre. Et c'est vrai que c'était l'année dernière, c'est tombé du mauvais côté avec Miami. Et donc, je m'attendais à avoir un petit peu un changement de philosophie là-dessus sur les tirs que tu laisses à l'adversaire comme sur les tirs que tu prends. Et en fait, ça n'a pas tellement changé. Le volume à 3 points qui est alloué aux adversaires reste le même que la saison dernière, donc très peu dans les corners et énormément above the break, donc bon, les 3 points qui ne sont pas dans les corners, quoi. Et au niveau de l'attaque, c'est toujours la même, donc très peu de fréquence au cercle. Dans les derniers, à la fréquence au cercle, très peu de lancers francs. Et en plus, tu n'as vraiment aucune de tes stars, à part Porzingis cette saison, qui arrive à provoquer beaucoup de lancers francs, surtout sur post-up. Mais sinon, Tatum et Jalen Brown, en fait, ils sont assez mauvais, en fait, à la provocation de lancers francs. Jalen Brown en particulier. Jalen Brown, c'est un voyage sur les lancers, au lancers francs tous les 10 drives. Donc, c'est vraiment petit. Et en fait, Jalen Brown, son shooting fall percentage, donc sa capacité à provoquer des fautes sur tir, Elle n'a jamais été aussi basse que maintenant, à part la saison d'après la bulle. Et en fait, elle a toujours diminué en carrière et elle stagne autour des 11,6%. Et en fait, bah, du coup, cette année, tu vois, c'est l'équivalent d'Alex Burke, par exemple, ou Dante Exum.
Du coup, ce que tu nous dis, c'est qu'en fait, le Jaylen Brown, c'est cool, ça génère des points, mais ce n'est pas ultra rentable, c'est ça?
Non, bah ça n'a jamais été très rentable, Jaylen Brown, et en plus, c'est parce que ça ne va pas beaucoup sur la ligne des lancers francs. Et du coup, il est, comme beaucoup, comme Boston, en fait, il est très victime de sa réussite à 3 points. Et l'année dernière, ça s'était bien vu pendant les playoffs, parce qu'il est en surchauffe à 3 points contre Philadelphie et contre Atlanta, et du coup, bah, il réalise des playoffs vraiment incroyables, jusqu'au moment où il tombe contre Miami, qui, du coup, il continue à prendre ses tirs à 3 points qui sont plus ou moins ouverts, sauf que là, je crois qu'il est à 18% ou un truc comme ça à 3 points sur la série contre Miami, en fait, il ne rentre plus rien. Et vu que bah, c'est pas non plus des mecs qui sont, c'est pas des drivers implacables, bah, tu arrives très vite à une limite de qu'est-ce que tu fais offensivement une fois que bah, du coup, ta variance tombe plus vraiment du bon côté. Et en plus de ça, vu que tu laisses beaucoup de 3 points adversaires, eh ben, tu peux être victime de la variance adverse. Et c'est ce qui s'est passé contre le Heat l'année dernière. Donc en réalité, les raisons pour lesquelles ils ont perdu l'année dernière, qui était le manque de diversité offensive, est un peu comblé par l'augmentation du post-up de manière régulière à la création et à la finition. Mais sinon, t'as pas vraiment changé de philosophie, même dans l'attaque des mismatchs, qui reste un peu la même, avec quand même beaucoup de pull-up. T'as peu de drive, t'as peu de cut, t'as peu de tentatives au cercle, tout simplement. Et du coup, bah, ça peut encore se retourner contre toi, arriver mai, tu vois. Et quand vous disiez que les Suns, c'était l'équipe que tu pouvais voir champion comme éliminée au premier tour, en vrai, je trouve que c'est aussi vrai pour Boston. Un premier tour de Boston... Bah, pour moi, à Boston, ils tombent contre Miami au premier tour. Pour moi, c'est une série qui va en 7 ou en 6. Et je mets pas forcément...
Et dans la douleur, quoi.
Ouais.
Bah, ah, c'est intéressant.
Tu retrouves, t'as pas totalement, ton effectif a changé, mais l'approche est pas non plus drastiquement opposée, et du coup t'as toujours les mêmes problèmes structurels, et en plus Horford a vraiment pris un coup de vieux, donc ça peut clairement poser problème. Une série contre Miami, tu peux faire jouer que 7 joueurs, je pense. Mmh. Allez, 8 joueurs si tu fais jouer Tillman, mais Pritchard par exemple, il doit pas avoir le terrain contre Miami. Parce que il va déjà offensivement, il apporte pas énormément, et puis défensivement,
oui, il va se faire cibler. Ouais, il va prendre Jimmy Butler,
c'est ça, exactement. Et du coup, si tu tombes sur Miami au premier tour, pour moi, t'es favori parce que
t'as un bilan, ouais.
Voilà, mais t'es pas confiant.
Ah, d'accord, en mais c'est, cas, c'est vachement intéressant ce que tu dis. Parce que nous, de l'extérieur, si tu veux, on a une sensation. Je vais donner la parole à Hicham parce que je pense qu'il a des trucs à dire sur Boston, peut-être. Mais nous, on a la sensation que les armes avec lesquelles vous jouez, vous les maîtrisez complètement et que votre défense, qui est quand même très, très bonne, finalement, l'équilibre entre votre attaque parfaitement maîtrisée et votre défense qui est vraiment étouffante parce que, bah déjà, tu pars sur le backcourt, tu as juste deux des meilleurs défenseurs guards de la ligue, donc Jrue Holiday et Derrick White. Et qu'en plus, ces mecs-là, ils ont un QI basket qui leur permet en attaque d'être aussi efficient, ou en tout cas pertinent. Et franchement, bon, moi, parce que je te lis beaucoup, que j'ai la cloche activée sur tes posts et tes threads sur Twitter, tu me fais me poser des questions sur Boston, mais franchement, de l'extérieur, quand on regarde les matchs, on se dit cette équipe, elle est absolument inarrêtable, quoi. Je ne sais pas ce que tu en penses, Hicham.
Bah, ouais, j'écoutais tout ça avec beaucoup d'attention, forcément, parce que j'ai beaucoup de choses à apprendre des Celtics, de quelqu'un qui suit vraiment cette franchise, comme moi, je suis ma franchise de cœur. Un peu étonné, c'est vrai, de ses craintes. Parce que quand on regarde quand même cette équipe, on se dit défensivement, pour commencer, c'est vraiment méga lourd, à mon sens. T'as la meilleure paire d'arrière défensive de la ligue et de loin, je pense, avec Jrue Holiday et Derrick White, et comme tu as dit, Greg, très justement, qui sont des joueurs très propres en attaque. Jerry Holiday, qui de tout temps était un joueur que j'ai très longtemps aimé, que j'ai très longtemps voulu au sein des Suns.
On l'a tous aimé jusqu'en 2021. Ouais.
Ouais. Et même après, j'ai eu du mal à le détester malgré tout.
Ouais, c'est vrai.
Mais c'est vraiment le joueur que je veux dans l'équipe depuis, allez, sans mentir, au moins 2017. Peut-être même avant. Et du coup, pour moi, ça crée un équilibre, un très bel équilibre, en fait, au Celtics, c'est-à-dire une grosse défense arrière, des ailiers qui ne sont pas des peintres. Entre Brown et Tatum, défensivement, bah, tu as quand même deux joueurs qui sont plus que capables d'apporter des grosses séquences de jeu quand ils le veulent. Moi, j'ai l'impression, je ne sais pas si Azad confirmera ce que je dis, mais que ce n'est pas toujours le cas de match en match, qui ne montre pas toujours cette volonté, cette envie d'être fourri classe un peu en défense. Mais j'ai l'impression que c'est plus une question de motivation et de match-up que vraiment de capacité, de qualité à être des gros défenseurs durs sur l'homme dans le périmètre. Après, peut-être une petite lacune au rebond éventuellement, surtout si t'as Porzi qui va s'excentrer loin du cercle, soit en attaque sur des pick and pop ou en défense parce que sur des switch il se retrouve un peu loin du cercle. Et est-ce que ça suffira à en faire en termes de rebond, même si les arrières sont pas mauvais du tout au rebond? Et à mon avis, c'est peut-être là qu'il y a une petite question qui peut se poser pour Boston. Est-ce qu'ils arriveront à constamment bien conclure les possessions défensivement? Maintenant, est-ce que je suis inquiet pour Boston? Ouais, d'un côté, un peu, effectivement, en fonction de la match-up. C'est-à-dire que Miami, tu as vraiment l'impression que c'est l'équipe là, de vieux briscards super bien coachés qui est capable de gifler n'importe qui à n'importe quel moment, alors que sur le papier, ils n'ont pas le talent de certaines autres équipes comme Boston. Mais tout est possible, effectivement, de ce côté-là. Mais moi, ça reste mon gros favori, en fait, à l'Est pour la finale.
Ah ouais, bah oui.
Je vois pas une équipe vraiment à l'Est rivaliser avec le firepower offensif et défensif de Boston cette année. Et puis les trois points, certes, c'est do or die, parce que quand tu mises énormément sur trois points, comme le font les Celtics, bah, quand ça rentre pas, ça pose des difficultés en termes de bah, qu'est-ce qu'on fait. Mais dans ces cas-là, tu as quand même des joueurs, tu as Tatum, dans une moindre mesure Brown, ou voilà,
Porzingis, il y a Porzingis,
qui sont capables d'apporter autre chose et d'être des joueurs sur qui tu peux éventuellement miser en un contre un. Je sais que Boston, il me semble, joue pas beaucoup avec Porzingis en post-up. D'ailleurs, même Dallas le faisait pas beaucoup. Moi, je me demande toujours pourquoi, parce que c'est un mismatch évident. Porzingis, quand tu regardes la taille et le volume physique du gars, mais s'il y a des switches et qu'il se retrouve avec des mecs qui font 20-30 cm de moins que lui, sur le dos,
ils font
profiter normalement. Donc, ils ont quand même les armes en main. Moi, j'ai envie de poser une question à Azad, c'est qu'est-ce qu'il pense de Matsula comme coach? Est-ce que c'est un top coach parce qu'il a un super bilan? Est-ce qu'il a un autre avis dessus? Est-ce qu'il a confiance en lui pour les playoffs, pour aller chercher le titre?
Moi, après, tactiquement, je trouve que c'est un peu difficile parce que... En fait, je trouve que les coachs qui sont arrivés après Brad Stevens et qui ont été choisis par Brad Stevens, c'est un peu dur d'évaluer leur capacité tactique parce qu'ils reprennent beaucoup ce qui avait été déjà mis en place par Brad Stevens, qui est devenu le general manager, et du coup, qui continue d'infuser un petit peu sa façon de faire, entre guillemets, en tout cas, sa volonté, un petit peu ses préceptes de jeu. Donc, tactiquement, je trouve que c'est dur à évaluer parce qu'en fait, c'est un peu de la continuité
avec ce qui était déjà fait. Comme on dit.
Voilà, c'est ça. Et après, en match, je trouve qu'il y a un peu plus d'ajustements, mais je trouve que ça manque toujours beaucoup. Mais c'est parce que c'est un coach qui est très proche de ses joueurs et qui leur fait confiance. Et du coup, bah, c'est encore une fois un truc que si ça tombe du bon côté, bah, très bien, parce que du coup, tu es un mec qui les responsabilise et c'est eux qui sont sur le terrain. Donc en réalité, c'est eux qui font que tu gagnes ou tu perds à la fin du truc. Mais... cette saison, il a quand même plus la main mise un petit peu sur le rythme du jeu. Il prend plus de temps mort. Il n'hésite pas, du coup, à avoir un peu plus des rotations qui changent en fonction des match-ups quand c'est nécessaire. Mais je trouve qu'il met toujours du temps à s'adapter. Ah ouais. Des choses que je comprends pas trop dans les, tu vois, le match contre Denver, il fait jouer Horford et Tillman en même temps sur des minutes où il n'y a pas Jokic. En fait, le seul intérêt de les faire jouer en même temps, c'est pour pouvoir gêner Jokic et où tu vois d'en avoir un des deux sur Jokic et d'avoir Porzingis un peu plus en roameur proche du cercle ou un des deux autres. Et il fait jouer les deux en même temps sur des moments où il y a pas Jokic, donc je comprends pas trop. Et c'est marrant parce que du coup, sur une séquence, il y a Tatum qui drive et en fait, à Horford et Tillman qui sont tous les deux dans les dunker spots. Du coup, t'as un peu, ça fait très à l'ancienne. Et à ce moment-là, il rate le tir. Mazzulla prend le temps mort directement. Il parle pendant le temps mort que les mecs, ils se placent pas bien pour le spacing et il fait rentrer Porzingis et il fait sortir un des deux.
Ouais.
Donc là-dessus, il y a une adaptation qui est un peu plus rapide qu'on voyait peut-être un peu moins l'année dernière. Mais c'est un coach, en tout cas, qui a créé énormément de buy-in de la part des joueurs. Et donc ça, c'est hyper important. Et après, au niveau tactique, je suis pas toujours fan de ce qu'il fait en match, mais après, et puis pas fan de l'approche non plus très orientée sur avec beaucoup de variance, peu de cercles, peu de drive, la manière dont ils attaquent les mismatchs. Mais après aussi, il y a le truc de, il y a ce que le coach veut mettre en place et il y a comment les joueurs le respectent aussi. Et on en parlait quand j'étais à Boston, j'échangeais avec Jared Weiss, qui est un journaliste de The Athletic, qui expliquait que quand il parlait avec un peu le coach personnel de Tatum, en fait, ces espèces de pull-up sur les mismatchs qui frustrent tout le monde, en fait, bah, c'est Tatum qui veut les prendre et tu peux pas dire à ton joueur star de pas prendre certains tirs non plus, tu peux pas non plus totalement le brider, donc tu es obligé d'accepter d'avoir un taux de déchet un petit peu. Donc il y a ça aussi qui rentre en compte à quel point ces joueurs sont capables d'intégrer ça dans leur jeu et dans le flow de l'attaque collective, quoi.
C'est
Intéressant,
intéressant
super
pour Edward,
intéressant, ouais, c'est
intéressant.
carrément intéressant parce que c'est aussi pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui, c'est d'avoir un avis le plus critique possible sur la meilleure équipe de la NBA parce qu'on pourrait passer des minutes et des minutes à encenser leur bilan, etc., etc. Mais en vrai, il y a tellement de leaders de la NBA et les Suns, on le sait bien, hein, puisque 2021, 2022, etc., on est quand même très haut dans les classements et puis on peut remonter pardon, plus loin. 2006, 2007, époque Steve Nash, Amare, Marion. Mais c'est vrai que les équipes qui sont très hautes dans les classements de saison régulière, il faut qu'elles aillent au bout parce que les espoirs sont immenses, quoi. Ils sont immenses. C'est un point commun qu'on partage entre les fanbases des Celtics cette saison et la fanbase des Suns pour des raisons différentes. Mais bon, voilà, moi, comme je dis toujours, je vous souhaite le titre, même si je souhaite quand même un petit peu plus le titre des Suns. Parce que
Ouais.
si vous l'obtenez pas, la déception, elle va être terrible, quoi. Elle va vraiment être terrible pour
Et
vous.
eux, ils ont quand même l'avantage un peu de la jeunesse, hein, je veux dire, Tatum, Brown et compagnie,
Ouais, il doit
c'est
en
pas
rester des
vieux.
pics aussi, je pense.
Mais juste un truc que je voulais ajouter vite fait, en gros, si je comprends bien les propos d'Azad, les Celtics sont excellents dans ce qu'ils maîtrisent, dans ce qu'ils font de bien et dans ce qui fait leur fond de commerce, leur fond de jeu. S'ils sortent des sentiers battus et Miami a tendance à les pousser dans ces sentiers-là, quand ils les croisent en playoff, la mécanique peut vite rouiller. Après, c'est vrai que cette équipe des Celtics, c'est quand même une équipe nouvelle. Puis tu as des joueurs vraiment pour lesquels j'ai quand même une grosse estime, en particulier Giroud, mais il y a aussi Porzi. Un banc, je te mens pas, Azad, quand j'ai vu le banc des Celtics en début de saison, je me suis dit, comment ils veulent aller loin avec ce banc-là? Ils se donnent pas les moyens de leurs ambitions. Ils vont rien faire, tu vois, avec des Hauser, des Pritchard, etc. Puis en fait, tu te rends compte, ces mecs-là, ils savent jouer au basket. Ils sont sérieux, ils connaissent leur rôle et ils jouent bien dans leur rôle, Cornette, etc. On les a vus contre les Suns, ça a mieux joué que le banc des Suns, largement. Et du coup, ouais, c'est une équipe qui, si elle joue son jeu et qu'elle ne se tape pas le mauvais match-up pour elle, peut aller loin. Mais c'est vrai que ça peut se dérégler, effectivement, si tu l'obliges à sortir de ses zones de confort, peut-être. Si je résume
Ouais, puis
à ça.
contre Denver en finale, c'est pareil, hein. Moi, Denver-Boston en finale, je parie 4-2 ou 4-1 Denver.
Ouais, t'es pas confiant du tout.
Qui
Non.
ne fait pas ce pari-là, quel que soit la
Là,
match-up de
c'est vrai.
Denver en finale? Si Denver est en finale, qui va parier contre eux, quoi?
Ils
Ben,
sont
franchement,
favoris contre beaucoup
c'est
de monde, ouais.
compliqué, quoi. Effectif complet, tout le monde en forme, etc. Pas de soucis de
Ils
santé.
sont
Bon courage, hein, à ceux qui parient contre Denver, mais
allés gagner à Boston, hein, il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours, je crois.
Non, ils ont tapé Boston deux fois cette saison. Et puis, comme, enfin, vraiment dans les règles de l'art, sur des matchs qui étaient serrés. Mais bah, d'ailleurs, il y a une des défaites où, d'ailleurs, les deux défaites viennent avec un Boston qui tire à moins de 32% à 3 points. Donc, bah, voilà, c'est une bonne illustration du propos. Ouais. Alors que Denver, l'année dernière, gagne en finale en tirant qu'une seule fois à plus de 30% à 3 points, je crois. Donc, et alors qu'eux non plus ne vont pas beaucoup au cercle, mais ont une autre manière de jouer en fait, dans la zone du short mid. Puis en fait, ils ont tout simplement Jokic.
Ils ont l'arme absolue, quoi.
Ouais, c'est ça. Et par contre, ils peuvent très bien gêner. Ils ont vraiment les armes pour gêner Boston, en fait. Donc, je pense qu'en gros, les deux pires match-up pour Boston, c'est les deux finalistes de l'année dernière. C'est Denver et Miami. Et potentiellement à l'Est, je pense que l'équipe qui peut le plus les gêner aussi, ce serait New York, potentiellement, si ils arrivent un peu bah, justement à bousculer les principes offensifs de Boston et à les sortir un peu de ça.
Ouais.
Mais sinon, voilà. Si, en gros, si Boston tombe pas contre Denver et pas contre Miami, je serais surpris qu'ils gagnent pas le titre. Et s'il tombe sur Denver ou Miami, je serais surpris qu'il gagne.
Voilà. Ouais, je vois.
Intéressant. Je vois. Merci beaucoup, Azad, pour tous ces renseignements sur les
tactiques. Avec plaisir.
Et merci beaucoup d'être venu dans Valley Hoop pour cette semaine. On va clôturer tranquillement cet épisode. Yes. On va remercier Hicham, évidemment, Azad une nouvelle fois pour sa présence, tous nos auditeurs et nos auditrices qui nous écoutent. Pour leur fidélité, etc., etc. On vous embrasse très fort. On se retrouve très vite avec Rod, sans doute, qui fera son retour. À très bientôt dans Valley Hoop. Ciao.
Sun came out, I went about to drop top.